Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Salut à tous, bonsoir. On est dimanche soir, au soir du deuxième Grand Prix à Valence, qui a sacré Joan Mir, champion du monde, un Grand Prix remporté par Franco Morbidelli. On retrouve notre envoyé spécial sur les Grands Prix, Michel Turcot. Salut Michel.
Salut Alexis, salut tout le monde.
Alors Michel, qui est à Valence, d'ailleurs peut-être que tu peux nous montrer, tu es dans ce qu'on appelle aujourd'hui la salle de presse, qui n'est pas la salle de presse classique à Valence, montre-nous.
Bah, c'est la salle de presse B, alors je vais vous la montrer, elle est là, hop, voilà, bon, on est quoi, une petite poignée, on est moins d'une dizaine, quoi. D'accord. On est moins d'une dizaine, la salle de presse elle est plus loin au bout du couloir, et là il y a les photographes et les journalistes de la Dorna, voilà, nous on est toujours les pestiférés, mais bon, ça c'était quand même bien d'être là, bah, déjà tu l'as dit, on a assisté au sacre de Mir, donc même si on était très très loin du podium, on a eu la chance d'avoir, il y a David Ebrio qui vient de passer nous voir, c'était très sympa, et voilà, j'ai pu faire quelques interviews, j'ai vu Zillenberg, voilà. J'ai vu Siegefeld aussi dans le week-end, donc ça permet quand même un peu mieux travailler qu'en restant à la maison.
Justement, l'ambiance dans le paddock pour voir tous ces gens-là, pour travailler, on sait qu'avec le Covid, c'était peut-être plus tendu sur ces dernières courses. Comment tu as senti ça, toi? Est-ce que malgré tout, les gens communiquent et vont les uns vers les autres?
Bah, non, chacun essaie de rester dans son coin et on sent que ça a quand même bien plombé toute la saison. D'ailleurs, Mir, pendant la conférence de presse, pour parler d'évoquer sa saison, il disait que ça avait été une saison qui était difficile parce que, en fait, bon, déjà, on avait un calendrier avec 11 courses en 19 week-ends, donc des séries de trois courses d'affilée, et entre les courses, la terreur d'être contaminé, quoi. Parce qu'on a vu Rossi qui a raté deux courses, ça c'est le Quena, il y a eu Jorge Martin qui aurait pu jouer le titre en Moto2, qui s'est retrouvé privé de cette chance. Donc c'est vrai que Johan disait que voilà, ça a été la pression était maximum, à la fois quand il était sur les circuits et quand il devait rentrer chez lui, quoi. Donc ça a été une saison hyper condensée. On a démarré le 19 juillet. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu un moment de répit. Donc là, je pense qu'il va y avoir un vrai soulagement quand ça va s'arrêter, quoi.
Une saison chaotique, on l'a vu. Pour beaucoup aussi, les pilotes ont été irréguliers. Ça n'a pas été le cas de Joan Mir. Depuis son premier podium en Autriche, il a vraiment fait une superbe saison. Aujourd'hui, champion, 23 ans. Joan Mir, c'est un pilote que tu suis depuis ses débuts, évidemment, en Grand Prix, que tu as vu grandir. En plus, qui a été coéquipier de Fabio Quartararo en Moto3. C'est un pilote assez discret, mais qui fait assez l'unanimité dans le paddock. Comment tu le vois, toi, Joan Mir?
Alors, avant de reparler un petit peu de son parcours, on va parler un peu de sa saison, parce que tu l'as dit, depuis le Grand Prix de Saint-Marin, il est là. Effectivement, alors on se rappelle qu'en Autriche, il avait fait gagner. Hein. Si la course n'avait pas été arrêtée, il était largement en tête. Mais quand il est reparti, il a dû repartir avec un pneu avant qui était déjà usé. S'il n'avait pas de neuf dans la gomme qu'il souhaitait prendre. Donc, il a été privé de cette victoire, on va dire. Mais par contre, après, à partir de Saint-Marin, là, il a senti qu'il était bien sur la moto sur d'autres circuits, pas seulement en Autriche, puisqu'on se souvient qu'en Autriche, le circuit où il avait gagné en Moto3 aussi, hein, c'est son premier Grand Prix, donc c'est un peu son circuit fétiche. Donc à partir de là, depuis le Grand Prix de Saint-Marin, où il termine troisième, où il fait deux super courses, hein, il double le Rossi, il double Quartararo, on se souvient de ses fins de course magnifiques, et depuis il n'a pas quitté le podium, si une fois au Mans sous la pluie, où il était un petit peu à la rue, comme Fabio d'ailleurs, mais voilà, ensuite il est resté sur le podium jusqu'à aujourd'hui. Bon, aujourd'hui il a roulé un petit peu les fesses serrées, hein, voilà, grosse pression quand même. Il faut pas oublier qu'il est jeune, il a 23 ans, qu'il roule chez Suzuki, et Suzuki ils ont pas été champions du monde depuis 20 ans, Donc on imagine un petit peu la pression qu'il devait avoir de l'usine pour aller chercher ce titre. Hein. Donc voilà, bon. En tout cas, il a fait le boulot, il fait septième, on lui en demandait pas plus, puisqu'il fallait qu'il reparte d'ici avec 25 points d'avance, et il en a un peu plus sur Franco Morbidelli, voilà, qui lui aussi a fait une belle course, et on en reparlera. Donc le parcours de Joan Mir, ben, c'est un pilote, alors c'est le premier pilote champion du monde de MotoGP à être passé par la Rookies Cup. Voilà, il n'avait pas gagné la Rookies Cup, il avait terminé derrière Jorge Martin, si je ne m'abuse.
C'est
un pilote qui ne vient pas d'une famille de motards, de passionnés de moto, donc il a dû un peu forcer son destin. C'est un pilote mallorquin comme Jorge Lorenzo, et c'est le père de Jorge, c'est Chicho Lorenzo, qui a une école à Majorque, qui lui a appris à rouler. D'accord. Et bon, Chicho dit que dès qu'il a vu rouler, il a vu un gamin super talentueux, quoi. Donc voilà, il a aidé aussi. Et après, c'est un pilote qui venait pas non plus d'une famille très fortunée, puisque son père a un skate shop à Majorque. D'ailleurs, il rêvait que son fils fasse du skate, il en a jamais fait. Voilà, il est passé par des coupes de marque. Et puis, il a eu la chance d'être aidé par Christian Lundberg, qui était le préparateur des motos avec lequel d'ailleurs Fabio a obtenu son premier titre en championnat d'Espagne en 2013, je crois. Et c'est lui qui lui a permis après de débuter en Grand Prix, quoi. Donc voilà, une saison, première saison, il fait 12e en Moto 3 en 2015. En 2016, il est champion.
Ouais.
Non, 2017, pardon. Ouais, voilà. 2016, il fait ses débuts. 2017, il remporte 10 victoires. Ensuite, il passe en Moto 2. Là, c'est Michael Bartolomi qui l'avait repéré, hein, qui le fait passer dans le team BDS. Et ça, c'est la saison où Michael Bartolomi est évincé de l'équipe. Donc là, c'est une saison hyper compliquée chez BDS, avec des grosses tensions dans l'équipe. Il y a Alex Marquez qui est un petit peu le petit chouchou, on va dire, du clan Alzamora. Bref, il sent pas bien du tout. Enfin, ça se passe très très mal. Mais néanmoins, il y a David Ebrivio qui l'avait lui aussi repéré depuis un moment. Il le fait signer son contrat pour débuter chez Suzuki. Et voilà, l'an dernier, il démarre en MotoGP. Il a pas eu de chance. Il s'est blessé. Il s'est fait très mal à Brno, hein, décollement de la plèvre. Donc, il a fait toute la fin de saison blessé, puisqu'il avait du mal à respirer. Donc, ça a été voilà. Et puis cette année, il démarre pas très bien parce qu'il il tombe lors de la première course à Jerez. Il refait une boulette en République tchèque, et puis après ça se met à rouler, et voilà, c'est un pilote qui est super doué, hein, ça tout le monde s'accorde à le dire, et qui a la tête sur les épaules aussi.
Moi, je voudrais ton avis sur la part dans son titre des performances de la Suzuki. Voilà, tout le monde dit qu'elle est un petit peu au-dessus. Est-ce que c'est le cas vraiment? Et aussi, on sait que Alex Rins a été blessé en début de saison. Est-ce que pour toi, Joan Mir aurait été plus fort à la régulière, ou est-ce que Alex Rins aurait pu aussi avoir son mot à jouer? Qu'est-ce que tu en penses?
Certainement que Rins aurait eu son mot, enfin, aurait été, s'il n'avait pas été blessé en début de saison, il aurait certainement été plus fort, plus consistant. En tout cas, je pense qu'en talent pur, Joan est un petit poil au-dessus. Après, voilà, la moto, alors, est-ce que la Suzuki est la meilleure? C'est difficile à dire. Je pense que c'est une. Disons, d'après ce qu'on entend et ce que disent les uns les autres, c'est la moto la plus homogène, la plus équilibrée, quoi. C'est pas celle qui a le meilleur moteur, mais c'est celle qui a peut-être le meilleur châssis. Et en tout cas, elle est. Alors, j'ai pas mal discuté avec Sylvain Guintoli, hein, qui est le pilote de Tess Suzuki, et qui a. Voilà, lui, ils expliquaient que le développement de cette moto, il a été fait pour essayer d'avoir le meilleur package possible, quoi. Pas forcément, encore une fois, elle excelle pas à l'accélération, elle accélère pas en entrée de virage, mais elle fait tout bien. Et une moto qui fait tout bien, si t'as un bon pilote dessus. Et puis surtout, cette année, c'est la moto qui a. Je pense qu'il s'est le mieux tiré de la gestion des pneumatiques et de ce fameux nouveau pneu arrière Michelin qui a posé tant de problèmes au Ducati. Sur les fins de course, elle a toujours été performante. Donc là, on ne l'a pas très bien vu aujourd'hui, mais il y a eu beaucoup de courses, notamment les courses à Misano, hein, ou à Aragon. On a vu les Suzuki finir les deux comme des boulets de canon. Donc voilà, je ne sais pas si c'est la meilleure moto. En tout cas, c'était la plus performante cette saison, ça c'est sûr.
Tu parles de ce fameux pneu Michelin. Est-ce que tu sais si Michelin travaille éventuellement sur un nouveau pneu l'an prochain, ou si on va rester avec les mêmes gommes et justement Ducati
il n'y aura pas de. Il n'y aura pas de changement. De toute façon, le développement des motos a été gelé, donc les développements des pneus, pareil. Là, on essaie de réduire les coûts, parce qu'il va falloir amortir quand même l'année prochaine ce qui s'est passé cette année, d'autant qu'on ne sait pas vraiment ce que 2021 nous réserve. Donc voilà, il n'y aura pas de. Après, ce pneu, tout le monde s'accorde à dire qu'il est plus performant. Hein. Il a plus de grip, il s'use moins. Globalement, les chronos ont été meilleurs. Le seul truc, c'est que voilà, il déstabilise. C'est un pneu qui est performant si on arrive à l'utiliser avec de la vitesse de passage en virage. Et on sait que ce n'est pas le point fort de la Ducati. Donc, c'est vrai que les Ducati ont été pénalisés. Après, des pilotes, on a vu Miller qui fait une super course aujourd'hui. Hein, quand on voit il se bastonne, il essaie d'aller jusque dans le dernier virage. Il est dans le coup. Donc, la Ducati peut fonctionner avec ce pneu aussi. Mais ça demande un pilotage un peu différent que celui qu'a pu avoir Dovizioso durant toute sa carrière. Donc, c'est vrai que c'est des petites choses à régler. Mais. Enfin, en tout cas, pour répondre à ta question, il n'y aura pas de changement de pneumatique pour l'année prochaine.
Tu l'as dit, le développement est gelé pour les motos, par les constructeurs pour l'an prochain, à cause de la situation. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que des constructeurs qui sont en difficulté aujourd'hui ne peuvent pas modifier leur moto? Est-ce qu'ils vont avoir les mêmes problèmes l'an prochain? On voit Yamaha qui embauche quelques chelots, par exemple, en tant que pilote essayeur. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose si on gèle le développement? Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Après, les spécifications du moteur ne peuvent pas être changées. C'est-à-dire que les pièces moteurs essentielles, elles doivent rester. Le dessin du moteur doit rester tel qu'il est. Après, ça permet néanmoins de travailler sur beaucoup de périphériques et beaucoup de choses, notamment au niveau des réglages, etc. Donc, on peut imaginer qu'Yamaha choisissent des pièces peut-être un peu plus anciennes ou en termes de châssis, puisqu'on voit que c'est la moto 2020, elle pose quand même de gros problèmes cette saison, hein, même si elle a gagné 4 courses. Franco Morbidelli avec la 2019, alors c'est une 2019 améliorée, bien évidemment, mais elle a aussi gagné 3 courses cette année, donc c'est vrai qu'il y a un petit problème là, à régler, quoi. Il y a des choses qui sont un peu incompréhensibles.
Ouais, justement, on va en parler. On rappelle aujourd'hui donc Franco qui remporte sa 3e victoire de la saison, super course tout seul en tête, enfin avec Miller derrière lui. Les autres Yamaha 2020, Fabio par terre, Vinales et Rossi pas dans le coup comme le week-end dernier d'ailleurs. Une M1 2020 très irrégulière tout au long de la saison. Comment ça se passe chez Yamaha face à cette situation-là aujourd'hui? En fait, c'est une situation qu'ils ont déjà rencontrée par le passé. On se souvient la superbe saison de Zarco avec un modèle de l'année d'avant. C'est un peu un bis repetita chez Yamaha, c'est une situation assez bizarre.
Exactement, ouais. Chez Yamaha, c'est vrai que ça fait un paquet d'années où on se demande toujours si la nouvelle moto va être meilleure. Donc là, cette nouvelle moto, c'est qu'elle a un moteur plus performant. Donc sur certains circuits, c'est dans certaines conditions, c'est une aide, mais globalement, les pilotes ont moins de ressenti avec, quoi, ils sont moins en confiance. Et c'est Fabio le dit très bien. L'an dernier, il touchait à rien sur la moto, et ça fonctionnait. Il se sentait super en confiance, donc il pouvait vraiment aller à la limite. Là, cette année, c'est pas le cas. Quand il force, il tombe. Après, encore une fois, on a un calendrier hyper bizarre avec des courses qui se répètent sur peu de circuits. Avec des températures qui ne sont pas celles que les pilotes rencontrent d'habitude, hormis à Valence où on a toujours un Grand Prix à cette époque de l'année. Mais par exemple, le week-end dernier, Morbidelli, il termine 11e en galère avec la pression dans son pneu avant. Et là, ce week-end, il est intouchable. Il fait une course magnifique comme la même qu'il avait faite à Aragon. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui sont... Même les spécialistes, même les techniciens, il y a des questions qui restent sans réponse pour l'instant. Hein. C'est vrai que c'est une saison qui est vraiment particulière. Parce que chez Yamaha, ils ont aussi été pas mal désorganisés. Il y a beaucoup il y a pas mal de Japonais qui ont été contaminés avec le Covid, qui ont été absents. Donc c'est vrai que ça a perturbé pas mal le travail des uns et des autres. Hein. Les Japonais qui peuvent pas voyager entre le Japon et ici et l'Europe, donc c'est pas facile, quoi.
Un petit mot quand même sur Morbidelli. Est-ce que toi, tu es surpris des performances de Franco cette saison? Voilà, 3 victoires, on ne l'attendait peut-être pas à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu en penses?
On avait vu en Moto 2 qu'il avait eu beaucoup de talent. Après, son côté brésilien, il a un côté un peu qui peut sembler un peu dilettante au départ. Quoi. C'est un mec hyper cool. Alors, on peut trouver peut-être un peu mou par moment dans son attitude, mais en même temps, c'est son style. Et je pense que, en fait, l'an dernier, il a pris une bonne gifle parce que de se retrouver avec Fabio, ouais. Il était. On se rappelle que l'an dernier, c'est lui qui avait été la moto de l'année, qui était censé être le fer de lance du team Petronas. Et en fait, il y a un gamin qui arrive et qui l'éclate, quoi, en gros. Donc, cette année, il est rétrogradé. Il se retrouve avec la moto de l'année dernière, donc il a pris une gifle, mais du coup ça l'a quand même motivé. Cet hiver, il a vachement bossé physiquement, il s'est affûté, et puis je pense que voilà, mentalement il est arrivé plus fort, et voilà, il concrétise tout ça cette saison, quoi. C'est en tout cas, ouais, moi c'est un chic type, et c'est un pilote qui est beau à voir rouler aussi. Qui est un peu différent des autres, c'est un personnage, c'est sympa, quoi, d'avoir un mec comme lui. Et alors, qui, c'est aujourd'hui, c'est Thomas Bojard qui, en conférence de presse, lui parlait un peu de Senna, et il racontait qu'en fait, il avait brésilien comme lui, enfin, il est à moitié, sa mère est brésilienne, à Morbidelli, donc il racontait que sa mère, elle avait, quand il était gamin, elle avait mis accroché dessus son lit un poster d'Ayrton Senna, un poster qu'il a toujours regardé, qui trimballe avec lui tout le temps, donc c'était rigolo, ça.
Son voisin de boxe, pardon, Fabio Quartararo, bon, un nouveau week-end noir. Nouvelle chute en course. Il est temps que la saison se termine pour Fabio. Est-ce que quel a été son débrief?
Voilà, il a passé le week-end à essayer de changer la moto dans tous les sens. Ouais. Il disait qu'il avait pu changer, il avait fait plus d'essais de réglage durant ce week-end qu'il en a fait tout au long de la saison dernière. Donc, il dit que d'habitude, il a un très bon ressenti sur les changements de réglage sur la moto. Et là, ils l'ont mis comme ça, comme ça, comme ça. Pour lui, c'était toujours pareil. Donc, bon, je pense qu'il y a aussi une amplification de par la frustration, la déception de ses résultats. Je pense qu'il y a... tous ceux qui font de la moto, ils savent bien que ces histoires de feeling, de confiance, ça tient à rien, quoi. C'est quand même, il y a aussi une grosse part dans la caboche. Donc après, quand tu as quantifié la partie technique, la partie dans la tête du bonhomme, c'est toujours difficile, quoi.
On remarque à l'arrivée de ce Grand Prix, si on regarde les résultats, qu'on a quatre constructeurs différents aux quatre premières places, et sans la chute de Nakagami, on aurait même eu cinq marques différentes aux cinq premières places. Ça c'est une belle victoire de Spelletta notamment. On a finalement un MotoGP plus compétitif que jamais, plus incertain que jamais aussi. C'est impossible de savoir qui va gagner. Alors, l'absence de Marc Marquez cette saison, c'est devenu un show finalement plus spectaculaire que lorsqu'il est là et qu'il domine tout.
Disons que déjà je pense que tout le monde a progressé. En plus, on l'a dit, les doublons sur les mêmes circuits, ça permet deuxième week-end à ceux qui ont été en difficulté de trouver des solutions. Donc le deuxième Grand Prix sur le même circuit, tout le monde est plus performant. Et puis voilà, on a vu les KTM qui ont progressé. Paul Espargaro, il est encore sur le podium. Binder, il est là. Les Ducati, même si Dovi a été en difficulté, il se bat encore pour une place dans le top pro championnat. Miller a fait des belles courses. Johan en a fait aussi. Nyaya, là, ces derniers temps, c'est plus difficile. Mais là, aux essais, il était pas mal. Donc c'est vrai que le niveau se relève, et quand Brivio est passé tout à l'heure, il a dit quelque chose d'assez intéressant, on attend tous le retour de Marquez et on est curieux de voir. Alors tout le monde se dit effectivement, si Marquez avait été là, si c'était pas blessé, il aurait gagné, il aurait atomisé tout le monde. Alors il aurait certainement gagné, après est-ce qu'il aurait atomisé tout le monde, ça, on saura jamais. Par contre, ce qui serait intéressant de voir, c'est comment l'année prochaine, quand il va revenir, alors en espérant qu'il revienne dès les premiers Grands Prix, parce que ça, c'est encore aussi une petite interrogation, puisqu'on sait qu'il doit certainement se faire opérer pour avoir une nouvelle greffe osseuse, donc sa blessure est compliquée, enfin, en espérant qu'il soit là très vite, c'est de voir comment il va affronter cette nouvelle génération qui a profité, elle, de cette saison pour progresser, quoi. Donc c'est vrai qu'on s'languit déjà le mois de mars 2021, en espérant qu'on ait des Grands Prix à cette époque de l'année.
Alors justement, on a pas mal de questions intéressantes qui nous viennent. Bon, on parle de Marquez, tu l'as dit, il devrait donc se faire réopérer une troisième fois, même si ce n'est pas officiel.
Ça, c'est quand même... Là, on attend... La dernière intervention qui a été faite avec un apport d'os, pour l'instant, ça semble pas prendre comme ça devrait. Donc, il a consulté d'autres médecins, d'autres chirurgiens. Et voilà, je crois qu'il se donne encore quelques jours. Et s'il n'y a pas d'amélioration, il y aura une nouvelle greffe. Cette fois, on va lui prendre de l'os sur la hanche et faire un sandwich. Bref, une opération D'accord. délicate, mais surtout qui va demander... au moins, je crois, c'est 3-4 mois, enfin 4 mois de guérison, de cicatrisation avant de pouvoir forcer dessus, de reprendre l'entraînement. Donc en gros, il devrait pas pouvoir se reprendre l'entraînement avant le mois de mars. Donc voilà, ça risque d'être juste pour le premier Grand Prix fin mars, quoi. Mais peut-être que ça ira plus vite aussi. Mais enfin, en tout cas, il y a une incertitude qui plane.
D'accord. Petite question de Jesse, est-ce que Sylvain sera toujours pilote TCR Suzuki en 2021? A priori, oui.
Ah oui, ils sont très contents de son boulot. Il est très content de lui aussi de ce qu'il fait. Il va avoir un petit programme de course un peu plus intense l'année prochaine, même si on n'a pas le droit de parler. Je crois que tout le monde est plus ou moins au courant aujourd'hui, ouais. Mais voilà, on ne va pas le dire. Mais voilà, Sylvain va être plus que jamais impliqué chez Suzuki l'année prochaine.
Dovi au HRC en 2021. Alors, on rappelle, Dovizioso a annoncé donc récemment qu'il n'aurait pas de contrat pour 2021. Il prenait une année sabbatique. Effectivement, pourquoi pas imaginer des.
Bah, alors, il était prêt d'une signature avec le HRC pour devenir pilote d'essai. Mais il a eu des requêtes un peu farfelues. On sait que Dovi, il est passionné de motocross et l'année prochaine, il veut courir en motocross. À un niveau amateur, bien évidemment. Mais le problème, c'est qu'il a demandé au HRC d'avoir l'autorisation de courir avec une KTM. Donc là, il a reçu une fin de non-recevoir. Et voilà. Donc ensuite, il a été en égo. Il a discuté avec Yamaha aussi. Mais bon, ça n'a pas abouti. Finalement, il s'est dit, bon, je vais me mettre un peu sur la touche. Et puis peut-être qu'il se dit aussi que si jamais il y a une blessure, si jamais Marquez ne revient pas aussi vite que prévu, on va peut-être l'appeler. C'est donc... Dovi au HRC en 2021, éventuellement si Marquez venait à devoir reporter son retour à la compétition, pourquoi pas, quoi.
Donc Crutchlow a annoncé ce week-end qu'il serait pilote d'essai Yamaha, de facto Lorenzo ne l'est plus, que va faire Lorenzo en 2021?
Ouais, il discute avec Aprilia pour faire du test aussi. Donc Aprilia, un petit mot sur Aprilia, hein, Iannone, ouais. A eu le malheur de faire appel de sa sanction de 18 mois de suspension pour dopage. Finalement, il a pris 4 ans. Donc, voilà, avec une défense farfelue, alors qu'il aurait pu reprendre la compétition l'année prochaine, sa carrière va s'arrêter là. Donc, pour le remplacer, il y a pas mal de noms qui circulent, dont celui qui tient la corde aujourd'hui. Alors, on a parlé de Bezzecchi, mais Bezzecchi... qui joue le titre aujourd'hui en Moto 2 et qui est un des protégés de la VR46 Academy, il va rester en Moto 2. Et d'autant que c'est aujourd'hui le fer de lance de l'équipe VR46, hein, puisque Marini va passer en Moto GP, lui, avec une Ducati dans l'équipe Avintia. On a parlé aussi de Didier Antonio, mais Didier Antonio, Gresini veut le garder en Moto 2. Donc, a priori, ça pourrait être Chase Davis qui roulerait l'année prochaine chez Aprilia.
On va suivre ça. Honda saison blanche, c'est vrai que pas de victoire donc en MotoGP pour Honda, il reste une course. C'est quand la dernière saison qu'on a vu sans victoire pour Honda en MotoGP?
Je crois que ça doit être 82 depuis les débuts. Je crois que c'était pas arrivé. Je pense que ouais, à vérifier, on va demander à Thomas Marcelino, mais c'est du jamais vu depuis le retour de Honda en Grand Prix en classe reine, quoi.
On revient à Franco Morbidelli. Est-ce que effectivement Ramon Forcada a aussi un rôle dans ses performances? On sait que c'est son chef mécanicien très expérimenté qui a travaillé longtemps avec Lorenzo.
Il a travaillé avec Lorenzo, avec Barros, avec pas mal de pilotes. Ouais, c'est un duo qui fonctionne bien. Oui, bien sûr, l'expérience de Forcada, elle compte beaucoup. En plus, surtout. Je pense que Forcada, il a aidé Morbidelli à croire en lui disant ben voilà, tu n'auras pas la même moto cette année, mais cette moto que tu as, elle est performante, Si on l'utilise du mieux possible, on pourra faire des bons résultats. Et ben voilà, la suite lui a donné raison.
Allez, une petite dernière. Visage très fermé pour Rins à la fin du Grand Prix. Va-t-il fêter le championnat, la victoire de Joan Mir? On sait que les deux hommes s'entendent quand même plutôt bien, alors c'est normal de ne pas faire la fête. Ouais.
Non, il a même enfilé le t-shirt de champion de Rins, de Mir, pardon. Il s'est impliqué. Voilà, au début, les relations entre les deux étaient compliquées, elles se sont améliorées. Nous, encore, c'est Brivio qui confiait ça tout à l'heure. Et il s'est associé. Alors, une des grandes forces de Brivio, on a parlé de la moto, mais des grandes forces de Brivio, ça a été aussi de créer cette équipe, de choisir les bonnes personnes, personnes capables de travailler ensemble dans une bonne ambiance. Personne tire la couverture à lui. C'est vraiment une famille, l'équipe Suzuki. Et ça, c'est vraiment une des qualités de David, de réunir ce groupe qu'il a formé. Et moi, j'aimerais rappeler que Brivio, quand il a été chez Yamaha dans les années 2000, c'est lui qui, en 2002, il arrive chez Yamaha, il fait venir Rossi, et deux ans après, Yamaha est champion du monde, qui n'était pas arrivé depuis là encore des années. Donc voilà, c'est quand même aujourd'hui un des... peut-être le meilleur team manager du paddock.
Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Michel. On se retrouve
le
week-end prochain à Portimao pour la finale du championnat, circuit qui n'a jamais été visité par le MotoGP.
Ça va être ça risque d'être sympa. Ouais. C'est un circuit avec du relief, des bosses. Ça risque d'être rigolo. Puis il y a quand même un titre Moto 2 et Moto 3, même si on en parle peu, qui sont encore très disputés. Et puis il y a quand même encore une place de vice-champion du monde à jouer en MotoGP. Donc c'est pas rien non plus. On sera là-bas.
Si tu dois mettre une pièce sur le vice-champion, Michel.
Voilà, au vu de la forme de Morbidelli, je pense que Suzuki aimerait bien aussi faire le double avec Rins. Et puis voilà, on verra est-ce qu'il peut pas y avoir une surprise avec Fabio, même si ça semble aujourd'hui compliqué vu le retard. Mais c'est pas fini, quoi. Donc il y a Vinales qui est dans le coup aussi. Vinales et Fabio, c'est vrai qu'ils sont un peu loin. Ça risque de se jouer entre Morbidelli et Rins, quoi. À voir.
Ça marche. Merci beaucoup.
Merci à vous. À bientôt. Salut. Ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for ways to win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt, so throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.